vous invite à trouver le livre de Daniel ce matin. Le livre de Daniel. Nous sommes au début d'une nouvelle année. Et qui dit nouvelle année dit résolution, n'est-ce pas? Vous avez certainement entendu parler des résolutions de la nouvelle année. Voilà, on va perdre du poids. Allez. Personnellement, j'espère, par la grâce de Dieu, faire plus de footing cette année. Voilà, on va faire plein de choses, apprendre un nouveau hobby, comme on dit, apprendre à faire quelque chose, laisser quelque chose de côté, mieux gérer son temps. Je suis certain que ces derniers temps, vous avez soit lu ou entendu parler de pas mal de résolutions. Voilà. Moi, je résolus de faire quelque chose de cette année. Soit de commencer quelque chose, soit d'arrêter. Et je vous pose la question, combien de temps durent en général ces résolutions? Quelques jours? Bon, pour les plus persévérants, peut-être, allez, quelques semaines? Un mois? Allez, deux mois? Au mois d'avril, au mois de mai? Est-ce qu'on se souvient même des résolutions que nous avons faites? En général, non. Alors, mois de décembre, est-ce qu'on se souvient de ce qu'on a résolu au début de l'année? Je suis convaincu qu'il y en a très, très peu qui s'en souviendraient. Et à cause de cela, parfois, on se dit, mais à quoi bon? Des résolutions, si c'est juste pour écrire sur un morceau de papier, si c'est juste pour avoir quelques idées dans la tête et après les oublier, à quoi bon? Ça ne sert à rien de faire des résolutions. Certains pourraient être dans cet état d'esprit. On se dit, cela ne vaut pas la peine. Et pourtant, aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous serons dans les livres de Daniel, et c'est un homme qui avait résolu certaines choses et qui est allé au bout de ses résolutions, qui a tenu bon. Et j'aimerais faire la lecture de plusieurs versets au chapitre 6. Vous trouvez ce chapitre dans ce livre. Daniel, chapitre 6. Nous allons lire les 11 premiers versets. Daniel, chapitre 6, on commence avec le verset 1. Darius trouva bon d'établir sous le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes le rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel à moins que nous en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis, ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, « Roi Darius vit éternellement. » Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, pourtant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et trois fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Prions. Oui, Seigneur, nous voulons te remettre ces quelques instants que nous passons dans ta parole. Donne-nous ton intelligence pour qu'on aide-nous à le mettre en pratique selon ta volonté. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Alors ici, nous avons une histoire assez bien connue, n'est-ce pas? Daniel, et on n'est pas encore arrivé, mais dans la suite de ce chapitre, Daniel dans la fosse au lion. Et ces événements nous montrent comment il arrive dans la fosse au lion. Et justement, Daniel, ici, est face à, on va dire, à un gros problème. Un gros problème que nous voyons à travers ces versets. Il avait pris apparemment cette résolution, ce ne sera pas la première, mais apparemment c'en est une, de prier. Au verset 10, nous apprenons qu'il avait l'habitude de prier tous les jours. Et apparemment, il avait pris cette résolution. Moi, je vais parler plus d'une décision. Il avait décidé, dans le passé, de prier Dieu 3 fois par jour. Et du coup, il va faire face à des obstacles à cela. Il avait pris une décision et maintenant il sera tenté de baisser les bras. Il y aura plein d'obstacles qui vont essayer de l'empêcher d'aller jusqu'au bout de cette décision qu'il a prise apparemment devant Dieu. Comme j'ai dit, ce n'est pas la première résolution que Daniel va prendre. Souvenons-nous, au chapitre 1, on ne prendra pas le temps ce matin d'aller voir, mais au chapitre 1, Daniel aura cette résolution dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets, avec le vin du roi. Et lui et ses 3 amis vont demander à être nourris avec simplement des légumes pendant un certain temps, et Dieu va bénir cela. Donc, déjà très tôt, Daniel va décider dans son cœur, et apparemment ici, bien des années plus tard, il avait pris cette décision de prier. Et pourtant, il fait face à pas mal d'obstacles que nous voyons justement dans ce passage, qui sont analogues aux obstacles que parfois nous confrontons. Parce que n'importe qui peut prendre une décision. Prendre une décision, voilà, je prends telle ou telle décision, ce n'est pas très difficile. Maintenant, surmonter les obstacles qui sont là, ça devient beaucoup plus complexe. Et soyez en assurés, les obstacles viendront. Ce n'est pas beau d'y penser, mais les obstacles, les tentations, les frustrations viendront. Et en tant que chrétien, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut tout laisser tomber en disant parce qu'il y a ces obstacles, parce que je n'y arriverai jamais, croit-on? Ce n'est même pas la peine de prendre des décisions, résoudre, de faire quelque chose. Non, comme Daniel, face à ces obstacles, il faut les surmonter et continuer. Alors déjà, nous voyons un obstacle dans ce passage, c'est la solitude. C'est la solitude. Et nous ne savons pas pourquoi Daniel est seul. On aurait pensé que peut-être ses amis, ses 3 amis, seraient avec lui, comme ils étaient avec lui plus tôt, des années plus tôt, quand il a fait l'interprétation d'un des songes du roi. Là, les 4 se sont réunis, ils ont prié Dieu, gloire à Dieu, ils étaient ensemble. Mais ici, Daniel est seul. On ne sait pas trop pourquoi. Peut-être que ses amis étaient ailleurs dans le royaume, ne savaient pas ce qui se passait à ce moment-là, n'étaient pas où se trouvait Daniel. Mais regardez, verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Il se retire dans sa maison, chez lui, apparemment il est seul. Et il choisit à la fois d'être seul avec Dieu, peut-être d'autres circonstances en fait qu'il était, mais il est seul dans ces moments-là. Et ça peut être un obstacle, parce que lorsque nous sommes seuls, nous le savons, nous sommes plus vulnérables. Lorsque nous sommes seuls, dans pratiquement n'importe quelle circonstance, nous sommes vulnérables. Marcher tout seul dans la rue, la nuit, dans un quartier douteux, on a peur, on ne le ferait pas. Si on est 4, 5, 6, on est un groupe, aller dans ce même quartier au même moment, déjà ça fait beaucoup moins peur. Quand on est un groupe, quand on est ensemble, on arrive à se fortifier. Mais ici, Daniel est seul. Et parfois dans notre vie, soit physique ou dans notre vie spirituelle, nous sommes seuls. Parfois c'est simplement une impression. On se sent seul, alors qu'on ne l'est pas vraiment. Parfois, nous sommes réellement seuls. Quand il y a des chrétiens dans les pays où ils sont persécutés, très souvent, ils sont un, peut-être deux, mais parfois, il y a un seul chrétien et il est le seul. Un homme, une femme, un jeune, le seul. Et là, c'est un obstacle pour aller jusqu'au bout de l'engagement avec Dieu, d'être seul. Et parfois, nous faisons face à la solitude par notre propre choix. On a choisi de le faire, peut-être que c'est suite au mauvais choix que nous avons fait et à ce moment-là on se retrouve tout seul. Peut-être que c'est délibéré, peut-être que ça ne l'est pas, mais à des moments nous nous retrouvons seuls comme Daniel. Et Daniel faisait face à cet obstacle de la solitude. Il n'avait personne d'autre avec lequel il pouvait partager cette lutte au-dedans de lui. Il est devant un choix, qu'est-ce qu'il doit faire? Il semble qu'il ne peut pas demander conseil à qui que ce soit autour de lui. Parfois, nous ressentons ce même sentiment, cette solitude. Nous ne pensons plus qu'il y a qui que ce soit autour de nous qui puisse nous aider, qui nous comprendrait. Et c'est là, au sein de la solitude, où, comme Daniel, même si on est seul, on peut se tourner vers Dieu, on peut crier, regardez la fin de verset 10. Oui, il est seul, il est là dans, chez lui, dans sa chambre, mais il va prier. Il se met à genoux, il prie et il loue Dieu comme il faisait auparavant. Au sein de la solitude, nous pouvons nous tourner vers Dieu. Et j'espère qu'il n'y a personne ici qui soit surpris avec cela, en disant, mais je ne le savais pas. Extraordinaire, je suis seul, je peux me tourner vers Dieu. Non, je suis convaincu que nous le savons, tous. Ce n'est pas une grande révélation là, mais pourtant ce rappel parfois est nécessaire. Parce que j'ose dire souvent est nécessaire. J'en ai besoin dans ma vie, nous en avons tous. L'obstacle de la solitude est réel, mais il peut être surmonté lorsque nous nous tournons vers Dieu. Parce qu'avec Dieu, nous avons tout. Dieu remplit tout, en tout. Il est partout. Il n'y a jamais un moment où il nous quitte. Et même si nous nous sentons seuls, même si physiquement nous sommes seuls, même si spirituellement nous avons l'impression d'être vraiment au bout, là, Dieu est avec nous. L'obstacle de la solitude n'est pas trop important pour que Dieu puisse nous relever, pour que Dieu nous abandonne. Non, nous pouvons nous tourner vers Dieu. Et tout comme Daniel, on prie, oui, on invoque son nom, mais on le loue. On le loue parce que Daniel se souvenait de tout ce que Dieu avait fait pour lui, toutes les fois qu'il avait délivré, tout ce qu'il lui avait montré, tout ce qu'il lui a permis de faire, comme nous verrons dans quelques instants. Mais il louait Dieu et il s'est approché de Dieu. Malgré cette solitude, et là, Dieu a pu le fortifier pour l'aider à surmonter cela. C'est déjà un obstacle, la solitude. Mais aussi, un autre obstacle auquel nous pouvons nous identifier, c'est l'occupation. C'est-à-dire, Daniel était un homme très, très occupé. Comment le savons-nous? Regardez, début de ce chapitre. Darius trouva bon d'établir au verset 1 que le royaume s'en va à sa trappe, c'est simplement des dirigeants. Nous, on parlerait soit de maire ou président du conseil, des choses comme cela. S'en va à sa trappe, les dirigeants qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel. Daniel, il est haut placé, il est dans le conseil intime du roi, mais par-dessus cela, verset 3, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Donc, à travers ceci, nous voyons que Daniel, c'est comme s'il est le deuxième dans le royaume. Et cela nous fait penser aussi à Joseph, souvenons-nous, et par la grâce de Dieu, Dieu l'élève à cette position de deuxième dans le royaume d'Égypte. Et ici, Dieu fait de même pour Daniel. Et croyez-moi, être deuxième dans le royaume de Babylone, à cette époque, il était un homme très, très occupé. Non seulement il travaillait avec ses deux autres personnes pour donner conseil au roi, mais il avait ses 120 chefs qui chacun dirigeait une province en Babylone. Et chacune de ces 120 personnes rendait compte à Daniel et ses deux autres personnes. Imaginez-vous diriger tout un royaume à travers cette hiérarchie. Croyez-moi, Daniel était un homme très, très occupé. Il était deuxième, juste en dessous du roi Darius. Et son travail était de rendre la vie de Darius, le roi, paisible, tranquille. Il ne fallait pas que le roi soit embêté. Non, qui allait être embêté, c'était Daniel et ces deux autres personnes, les 120 chefs qui étaient là. Non, il ne fallait pas que le roi soit embêté. Si quelqu'un allait être embêté, c'était Daniel. Et nous, dans notre vie, nous sommes occupés. Nous sommes occupés par bien des choses nécessaires. Nous mangeons. Okay. Très bien, nécessaire, essentiel, sinon nous mourrons. C'est comme ça. Nous travaillons, nous avons un travail par la grâce de Dieu et nous nous occupons de cela. Nous nous occupons de notre famille. Très bien, gloire à Dieu. Nous avons d'autres occupations et surtout dans notre époque, aujourd'hui, notre société semble être obsédée par le fait d'être occupée. Il ne faut pas de moment de détente, quoi que ce soit. Non, il faut toujours être en mouvement, faire quelque chose, s'occuper de telle ou telle chose. Et Daniel était bien occupé avec des choses légitimes, des choses nécessaires, des choses du royaume, sûrement des choses personnelles également. Et si quelqu'un était occupé, c'était bien Daniel, à réfléchir à toute cette administration de ce grand royaume, ce grand empire de Babylone, comme on voit des Mèdes, des Perses, qui s'étendaient sur un territoire énorme, un des plus grands territoires qui ait jamais existé. Et là, Daniel devait jour et nuit penser à ces choses. Il se levait, il pensait, qu'est-ce que je vais faire pour le roi, qu'est-ce que je vais faire dans telle ou telle province. Il se couchait en pensant, bon, aujourd'hui, j'ai fait ceci, je n'ai pas pu faire cela, demain je vais devoir faire voir telle ou telle personne, mettre en place telle ou telle chose. Et nous pouvons nous associer à cela. Et nous sommes occupés. Et malheureusement, l'obstacle de l'occupation, c'est-à-dire d'être trop occupé, fait que nous renonçons aux décisions, aux résolutions que nous avons prises, et nous nous laissons devenir trop occupés. Et nous ne nous occupons pas de nos décisions que nous avons prises. Mais Daniel, non. Daniel, il n'était pas trop occupé pour entretenir sa relation avec Dieu. Verset 10, au sein de tout ce qui se passe, malgré toutes ses occupations, malgré toutes ses responsabilités légitimes qu'il a remplies, en même temps, Daniel trouvait le temps, trois fois par jour, de prier Dieu. Au verset 10, on voit que ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, que ce n'est pas parce que le roi a écrit ce décret que Daniel va commencer à prier. Non, non, on voit au verset 10, c'était son habitude. Et malgré toutes ses occupations, il trouvait le temps, il faisait le temps plutôt, d'avoir ce moment de prière, d'entretenir sa relation avec Dieu. Depuis longtemps, Daniel, il avait appris qu'entretenir sa relation avec Dieu devait être sa plus grande et plus importante occupation. Et trop souvent, nous sommes coupables de nous laisser envahir par des occupations légitimes et nécessaires, et nous faisons ce choix de laisser de côté l'entretien de notre relation avec Dieu, pour plutôt faire ces autres choses et après revenir et nous occuper de notre relation avec Dieu, alors que cela devrait être tout l'inverse. Et Daniel nous le montre. Les choses se seraient passées bien différemment si Daniel s'était laissé envahir par toutes ces occupations. Il n'aurait pas été béni, nous n'aurions pas toutes ces histoires, tous les exemples de sa vie, s'il n'avait pas entretenu sa relation avec Dieu malgré ses occupations, malgré tout ce qu'il avait à faire. Ce n'était pas comme s'il avait beaucoup de temps libre, je suis certain qu'il en avait très peu. Et pourtant, il faisait du temps pour entretenir sa relation avec Dieu. L'occupation peut être un obstacle que nous pouvons surmonter, mais un obstacle quand même. Mais aussi, nous pouvons voir qu'un autre obstacle, ce sont les conséquences de nos choix. Les conséquences de nos choix. Lorsque nous choisissons, lorsque nous décidons de suivre Dieu, de vivre pour lui, il y aura des conséquences. Il y aura de bonnes conséquences. Une paix que Dieu apporte, une joie, sa grâce et sa gloire qui se reflètent à travers nous. Mais il se peut qu'il y ait de mauvaises conséquences qui viennent sur l'immédiat. Et c'est le cas avec Daniel. Alors, verset 10, j'aime bien que Daniel relève ceci. Il dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit. Daniel savait très bien ce qui allait lui arriver lorsqu'il est allé prier ce jour-là. Ce n'est pas comme si Daniel va prier comme il a l'habitude sans se rendre compte de ce qui va se passer. Dans un sens, on pourrait comprendre. Il ne sait pas, donc il est normal qu'il aille prier et tout. Non, non, il va prier en connaissance de cause. Il va prier en sachant que cette prière, ce temps qu'il passe avec Dieu, va lui coûter probablement la vie. Souvenons-nous, lui, il ne connaît pas la suite de l'histoire. Nous savons qu'il sera délivré de la fosse aux lions. Mais Daniel ne le savait pas sur le moment. Et ses conséquences auraient pu l'empêcher d'aller prier, d'aller passer du temps avec Dieu. Dans notre esprit logique, on se dit, allez, pour un jour, ce ne serait pas la peine. Pour 30 jours, un mois, Daniel, tu as été fidèle. Jusque-là, allez, un mois, ça va. Et après, tu peux reprendre. Parce que quand même, tu ne veux pas subir ces mauvaises conséquences. Tu vois ce qui t'attend. Mais ces conséquences n'ont pas arrêté Daniel. Daniel savait qu'il mettait sa vie en danger en allant prier chez lui. Et pourtant, il a fait. Et parfois, lorsque nous choisissons, nous décidons de suivre Dieu, lorsque nous décidons de mettre les choses de Dieu en premier, parfois, on risque de graves conséquences. Quelqu'un qui va mettre Dieu à la première place risque la moquerie. Vous allez dire, mais c'est pas une grave conséquence, cela. Et pourtant, combien de fois sommes-nous arrêtés parce que nous pensons que quelqu'un va se moquer de nous? Quelqu'un qui met Dieu en avant, qui va témoigner, qui veut vivre pour Dieu, risque le licenciement. Que faisons-nous? Dieu n'est-il pas puissant pour pouvoir un travail? Moi, je crois que oui. Lorsque nous décidons de vivre pour Dieu, parfois, heureusement, non pas dans notre pays, mais dans d'autres pays, les gens risquent la mort. Et pourtant, ils continuent. Et parfois, ils vont jusqu'à la mort. Mais ils ne renoncent pas. Malgré les conséquences qu'ils savaient très bien aller venir, Daniel n'a pas trébuché. Daniel ne s'est pas arrêté en disant « Ah, est-ce que je le fais ?» Non. Ce passage ne nous donne aucune indication qu'il y a eu le moindre doute dans l'esprit de Daniel. Il savait savait très bien ce qu'avait écrit le roi, il savait très bien les conséquences, et quelle est la première chose qu'il fait? Il va fuir. Non pas pour défier le roi en disant au roi Darius, je ne m'occupe pas du tout de toi, peu importe ce que tu dis. Non, non, c'était je veux servir Dieu, je veux entretenir cette relation avec Dieu, je veux continuer avec Dieu, malgré les conséquences. Et ici, Dieu va préserver Daniel. De manière miraculeuse, il va apaiser les lions, comme Daniel va le dire, c'est son ange, l'ange de Dieu, qui va fermer la gueule des lions. Extraordinaire, un miracle, il n'y a que Dieu qui puisse faire cela. Et parfois, Dieu préservera les mauvaises conséquences. Nous allons témoigner, et puis là où on pense que quelqu'un va se moquer de nous, là où on pense que une mauvaise chose va nous arriver, non, Dieu transforme en bien. Parfois, ces mauvaises conséquences arrivent et Dieu ne préserve pas des mauvaises conséquences, et ce que nous pouvons penser sont des mauvaises conséquences. Il nous permet de les traverser, mais il va nous garder au sein de cela. Nous pouvons penser à Paul. Combien de fois, lorsque lui, il témoignait pour Dieu, est-ce qu'on s'est moqué de lui? On l'a lapidé, on l'a mis en prison, on l'a battu. Il a été mal compris. Et pourtant, Paul, est-ce qu'il a arrêté? L'exemple le plus extraordinaire. Paul se fait lapider devant la ville de Lydde. Et là, il se relève par la grâce de Dieu. Puis il entre dans la ville, il reste encore un jour. Auprès de ces personnes qui l'avaient lapidé, croyant qu'il était mort. L'aurions-nous fait? Bon, peut-être si on essaie de nous lapider, ben, on va partir dans notre direction, préserver sa vie. Mais là, Paul, il avait à cœur de témoigner et d'être fidèle à la mission que Dieu lui a donnée, que même si on le lapidait, même si on le battait de verre, même s'il avait fait naufrage, comme il va expliquer aux Corinthiens, il allait continuer. Les conséquences de sa décision de suivre Dieu n'allaient pas l'empêcher d'aller jusqu'au bout. Et les conséquences de notre décision de suivre Dieu ne doivent pas nous faire arrêter. Bien sûr, il faut être prudent. Dieu veut que nous soyons sages, que nous ayons du discernement. Mais les conséquences de notre choix de suivre Dieu, de lui être fidèle, ne doivent pas nous empêcher de renoncer, ne doivent pas nous faire renoncer, ne doivent pas nous empêcher de continuer. Que l'on se moque de nous, peu importe. Que même on perd son travail, Dieu peut en pourvoir un autre. Et même s'il ne le fait pas, il est capable de nous soutenir, il est capable de pourvoir à nos besoins et il a promis de le faire. Peu importe les conséquences qui peuvent venir, ne les laissons pas nous arrêter dans cette décision d'aller jusqu'au bout de notre décision de suivre Dieu. Daniel ne l'a pas fait. Il savait très bien ce qu'il faisait et pourtant il a continué et Dieu a béni pour cela. Un autre obstacle que nous pouvons voir, c'est la pression. Daniel avait déjà fait face à cet obstacle au chapitre 1. Souvenons-nous, Daniel et ses trois amis sont les seuls parmi tous ces jeunes hommes de demander un régime différent. C'est ce que le roi proposait. Tout le monde faisait comme on s'attendait, comme le roi imposait, mais Daniel et ses trois amis se sont dit, non, nous avons résolu devant Dieu de ne pas nous souiller. Du coup, malgré leur décision, nous allons faire ce qui est juste. Du coup, Daniel avait déjà fait face à cela, et il fait face de nouveau à cela. Ici au chapitre 6, le roi donne cet ordre, écrit ce décret, et si le roi écrit quelque chose, ben tout le monde le fait. Il n'est pas question de désobéir au roi, n'est-ce pas? Ce n'est pas chacun fait comme il veut, le roi écrit quelque chose, mais bon, on obéit, on n'obéit pas. Non, 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 roi écrivait quelque chose et tout le monde obéissait. Et je suis certain que Daniel savait que tous ceux qui l'entouraient allaient obéir à ce décret. Donc tout le monde autour de lui le faisait. Et puis, il aurait pu rationaliser cette pression en disant ben, « je peux prier en moi-même ». On ne le lit pas dans les pensées, n'est-ce pas? Au moins pas pour le moment. Il semblerait qu'un jour ça reviendrait. Peut-être, on verra. Mais on ne lit pas dans les pensées. Du coup, Daniel, il aurait très bien pu prier en lui-même, dans son esprit, continuer de prier à Dieu. Il n'avait pas besoin de prier au roi. Et personne ne l'aurait su. Peut-être qu'il y avait d'autres qui agissaient comme cela, que Daniel connaissait. Et cette pression de se conformer, de ne pas faire trop de vagues, Daniel aurait pu succomber. Il aurait pu trébucher et se laisser arrêter par cet obstacle de la pression de ceux qui l'entouraient. Peut-être des amis, des gens de bonne volonté qui ont dit « Mais Daniel, qu'est-ce que tu fais ? Ben, sois raisonnable, trouvons le juste milieu. » N'allons pas trop loin, ne sois pas fanatique, Daniel, quand même. Mais Daniel, non, il rentre chez lui. Et au lieu de s'enfermer et de faire un peu chez lui tout seul, en son coin, en lui-même, non, non, il va aller dans sa chambre, il va carrément ouvrir les fenêtres. Et puis il va prier. Et là, c'est souvent entendu à haute voix. C'est manifeste ce qu'il dit. Il n'essaie pas de cacher. Même si tous ceux qui l'entouraient obéissaient au roi, ou à la limite ne désobéissaient pas, Daniel n'allait pas faire de compromis, il n'allait pas céder à cette pression de tous ceux qui l'entouraient. Et nous aussi, nous faisons face à cette pression. Le monde aimerait qu'en tant que chrétien, on ne témoigne pas de trop. Un peu, d'accord, pas de problème. Que cela se passe entre nous, d'accord. Et on ne vous embêtera pas, mais vous non plus, ne venez pas nous embêter. Ayez votre vie avec Dieu pour vous-même, mais surtout n'en parlez pas autour de vous. C'est bien pour vous, gardez ça pour vous. Mais nous sommes appelés à être des lumières. Nous sommes appelés à être des témoins. D'où vient notre mot martyr, le mot en grec pour témoin dans le Nouveau Testament, c'est le mot pour martyr. Ce témoin où nous manifestons que Dieu travaille en nous et nous ne le cachons pas, même si d'autres chrétiens, même si d'autres groupes ne le font pas, peu importe, même si nous serions la seule église, même si on est le seul chrétien là où on se trouve, au travail, ailleurs, ne cédons pas à cette tentation, à cet obstacle de compromettre notre témoignage pour Dieu, de céder à la pression, de dire ben, je peux vivre ma vie avec Dieu tout seul, sans faire trop de vagues, sans déranger de trop. Non. Daniel ne l'a pas fait. Et du coup, pour nous, de céder à cet obstacle de la pression n'est pas du tout ce que Dieu veut. Et puis finalement, et cette liste n'est pas exhaustive, mais finalement, nous voyons qu'il y a l'obstacle carrément des attaques. Vous avez constaté que ces chefs ne sont pas subtils. Okay. Ils vont vers le roi dans le but exprès de piéger Daniel. Ils n'ont autre but en écrivant cette loi qu'ils présentent au roi que de piéger Daniel. Ils disent au verset 5 « Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel à moins que nous en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Et c'est là où ils vont chez le roi et ce qu'ils présentent au roi est uniquement pour Daniel. Et ils disent pendant un mois, 30 jours, toutes les prières doivent être adressées au roi. Aucune exception pour qui que ce soit. Et la conséquence, bien sûr, c'est la mort en passant par la fosse aux lions. Tous ces hommes attaquent personnellement et directement Daniel. Daniel n'était pas une arrière-pensée lorsqu'ils ont écrit cette loi en disant « Ah oui, peut-être que cela aura une conséquence sur Daniel. » Non, non, ils ciblaient personnellement Daniel. Et parfois, nous sommes ciblés à cause de notre marche avec Dieu. N'est-ce pas? Parfois, on nous attaque, on nous embête, on fait toutes sortes de choses parce que nous sommes chrétiens. Ce n'est pas à cause de ce que nous sommes, de notre arrière-plan ou autre, c'est simplement parce que nous sommes chrétiens. Et on nous attaque. Satan est là et il s'attaque aux chrétiens. Le monde est là et repère ceux qui veulent vivre pour Dieu et essaie de les faire compromettre, va les attaquer, parfois directement. Parfois ce sera subtil, mais d'autres fois ce serait tout à fait direct et ciblé. Et dans ces moments-là, on aura la tentation de baisser les bras. Parce que les difficultés normales dans la vie, on arrive à les surmonter. Quand nous avons notre vie et il y a tout simplement les difficultés, les frustrations normales de la vie, bon, d'accord, on arrive à surmonter. Mais quand il y a des attaques personnelles, directes contre nous, ça peut décourager. Ça peut faire baisser les bras. On se dit, mais je ne mérite pas ça. Dieu, je veux te suivre, je te suis. Et là, on m'attaque. Est-ce que ça vaut vraiment la peine, ces attaques? Si c'était des attaques générales, ok, d'accord, mais là, c'est ciblé. Ils en veulent à moi. Et Daniel subissait cette attaque directe, ciblée, de la part de ces hommes jaloux, ni plus ni moins, c'est de la jalousie ici. Et tout est contre Daniel, mais Daniel n'a pas renoncé, Daniel n'a pas cédé, et il va chez lui, dans sa chambre, il ne se cache pas du tout, il ouvre ses fenêtres, et il va prier à Dieu. Et du coup, verset 11, ce verset m'a toujours fait un peu rigoler, parce que je m'imagine un peu la scène. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement. Daniel, maintenant, a fait face à tous ces obstacles. Et il a surmonté jusque-là. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement. Moi, j'ai un peu dans mon esprit, vous savez, dans les films où on brise la porte, on entre chez quelqu'un. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai un peu cette impression. Et ces hommes trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Comme on va dire, en plein milieu. Il est là, il s'est fait attraper. Et dans la suite de ce chapitre, nous n'avons pas le temps ce matin de voir tout, vous connaissez l'histoire. Daniel accusé, condamné, et on peut dire condamné justement. Vis-à-vis de la loi, sa condamnation est juste. Il a brisé la loi. Mis dans la fosse aux lions, Dieu le préserve miraculeusement, et ses ennemis sont punis, et toute la gloire revient à Dieu, comme nous voyons à partir du verset 25. Le roi Darius reconnaît que c'est Dieu qui a délivré Daniel et qui l'avait soutenu. Et Daniel, en aucun cas, n'a cédé à ces attaques qui étaient là. C'était dirigé directement contre lui. Ce que ces hommes jaloux ont fait n'avait autre but que de cibler Daniel, de le faire tomber, de lui faire du mal. Mettez-vous à la place de Daniel. Comment est-ce qu'il a dû se sentir? Ces hommes avec lesquels il travaillait, ces hommes envers lesquels lui n'avait pas du tout de jalousie, n'avait pas du tout de mauvais sentiments, et pourtant eux, ils étaient jaloux, ils ont tout fait pour le faire trébucher, pour l'écraser. Là, Daniel tient bon. Daniel va jusqu'au bout. Il y a deux éléments ici dans ce passage. Déjà au verset 10, trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il avait une habitude d'entretenir sa relation avec Dieu. Et rien, littéralement rien, même pas la conséquence de la mort, n'allait l'empêcher de faire cela. Avons-nous cette même fortitude? Avons-nous ce même désir que rien, même si on venait et on disait, si vous continuez votre relation avec Dieu, vous mourrez. Je prie, j'espère par la grâce de Dieu que je pourrai répondre, alors tuez-moi, parce que je ne renoncerai pas. J'espère que ce serait ma réponse. Mais non seulement au verset 10, nous avons cet élément, mais regardez rapidement verset 23. Verset 23, un verset que nous n'avons pas lu, mais qui nous apprend une chose très très importante. Alors le roi fut très joyeux, et là, quand on lit le contexte, il entend la voix de Daniel. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, alors qu'il vient de passer la nuit avec des lions. Et, miracle. Et il n'y avait aucune blessure. Pourquoi? Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Même au sein de la fosse aux lions, alors que tout semblait noir, il avait passé la nuit là. Et souvent la nuit, c'est quand on a les pires pensées, on se laisse un peu envahir par différents sentiments. Et en plus, il était avec des lions. Vous vous rendez compte? Et pourtant, il a eu confiance en Dieu. Il ne s'est pas dit, Dieu m'a abandonné. J'ai prié et Dieu ne m'a pas délivré. Je suis dans la fosse aux lions. Oui, mais Dieu te préserve dans la fosse aux lions. Et du coup, Daniel, il avait résolu dans son cœur d'obéir à Dieu en toutes choses. Et parce qu'il entretenait sa relation avec Dieu, et parce qu'il continuait de faire confiance en Dieu, Dieu a fait des choses extraordinaires dans sa vie. Rien de tout cela ne serait passé si Daniel ne continuait pas d'entretenir sa relation avec Dieu. Et du coup, Daniel avait pris cette décision d'obéir à Dieu, d'aller jusqu'au bout. Mais ce n'était pas avec sa propre force. Ce n'est pas parce que Daniel est qui que ce soit. Non, c'est parce que Dieu l'a aidé à faire cela. Daniel n'avait pas en lui-même la capacité d'aller jusqu'au bout, tout comme nous. Si Daniel a pu résister à toutes ses tentations, s'il a pu surmonter tous ses obstacles, c'est parce que Dieu lui a donné la force de le faire. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui, 21e siècle. Si nous continuons, si nous surmontons, si nous allons jusqu'au bout, ce n'est pas parce que la force est en nous. Non, c'est parce que Dieu nous rend capable de le faire. Mais cela commence avec cette décision, si je peux dire cette résolution, d'aller jusqu'au bout avec Dieu. Dieu le veut et cela vaut la peine. Peut-être nous trébucherons. Peut-être nous nous relâcherons. Et à ce moment-là, il faut s'en repentir et puis continuer. Continuer. Et tout simplement, en ce début d'année, si on pense que les résolutions, les décisions ne valent pas la peine, révisons peut-être cet état d'esprit. Et peut-être nous pouvons décider de faire pour Dieu ce que lui demande. Et pour terminer ce matin, avec l'exemple de Daniel, qui lui est allé jusqu'au bout, et nous avons le même Dieu qui nous rend capables d'aller jusqu'au bout également, nous pouvons aussi réfléchir à des choses que Dieu voudrait voir dans notre vie, des décisions, des résolutions, si vous voulez, que nous pouvons prendre pour cette année. Prier davantage. Qui ici pourrait dire qu'il prie de trop? Moi, je ne peux pas le dire. Nous ne prions pas assez, mais nous pouvons prendre la décision aujourd'hui et renouveler cela, jour après jour, de prier davantage. Nous pouvons prendre la décision d'évangéliser plus, d'être présent pour les réunions d'évangélisation que nous avons une fois par mois, mais aussi dans notre travail de tous les jours. Nous pouvons prendre la décision de sacrifier notre temps pour quelqu'un d'autre, d'aider quelqu'un. Nous pouvons prendre la décision, la résolution, de partager un verset que Dieu a utilisé pour nous encourager, pour encourager quelqu'un d'autre. Vous y avez pensé? Le faites-vous? Nous pouvons prendre la décision d'être fidèles aux réunions de l'Église. Nous pouvons prendre la décision de reprendre contact avec quelqu'un pour les encourager dans la parole. Et puis, le dernier, mais surtout pas le moindre de ces choses, nous pouvons prendre la décision de passer tout ce temps dans la parole. Daniel, malgré toutes ses occupations, passait 3 fois par jour du temps avec Dieu. Et nous? Y a-t-il des journées où on ne lit pas sa Bible, où on ne prie pas? Si tel est le cas, nous pouvons prendre cette décision par la grâce de Dieu. Encore une fois, ce n'est pas nous. Il nous faut prendre la décision, mais c'est Dieu qui nous rend capable de le faire. De dire, je vais prendre cette décision. Dieu, aide-moi de faire ces choses. Parce que Dieu veut nous voir grandir. Et cette année qui est devant nous peut être une année extraordinaire pour Dieu, non pas à cause de nous, mais à cause de ce que Dieu va faire dans notre vie. 2015 peut être la meilleure année de notre vie. Et puis nous pouvons dire la même chose de 2016 et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, à cause des progrès que nous allons pouvoir faire avec Dieu, cette année peut être la meilleure année qui soit. Mais cela commence aujourd'hui avec une décision d'aller jusqu'au bout avec Dieu. Et puis de renouveler cette décision tous les jours et bien sûr en comptant sur Dieu. Daniel a eu confiance en Dieu. Avons-nous confiance en Dieu? Nous le disons, mais est-ce que nos actions le montrent? C'est cette année qui montrera si oui ou non. Notre désir, je suis convaincu, sera oui, mais après, montrons les preuves. Daniel l'a montré à la vue de tous. Suivons son exemple et laissons Dieu faire cela dans notre vie pour sa gloire. Prie. Oui, Seigneur, nous savons que c'est toi qui nous rend capables. Nous sommes insuffisants en nous-mêmes, malgré la meilleure volonté. Et nous demandons ton aide pour suivre l'exemple de Daniel, pour être comme lui, fidèle en toutes choses, prenant le temps pour toi, obéissant en toutes choses, Seigneur. Que tu nous aides à prendre les décisions qui t'honorent, qui te glorifient, et que tu nous rends capable par ta puissance d'aller jusqu'au bout, et ainsi, Seigneur, que tu sois exalté, que les gens te voient, et non pas nous, que tu puisses recevoir toute cette honneur et toute cette gloire qui te dit, parce que c'est toi qui agis en nous à chaque instant. C'est en ton nom que nous prions.